Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Hello, bonjour, nous voilà de retour à l'image pour la 13e édition de Focus Store, celle qui porte malheur si vous ne vous la faites pas jusqu'au bout. Bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter en podcast, mais ce serait quand même dommage de louper le fréminois de nos chroniqueurs du jour. Il y a le rédacteur en chef du magazine Focus Vif. Bonjour Laurent Raphaël.
Bonjour.
Il y a Olivier Van Varenberg, chef, spécialiste des mauvais genres littéraires. En tout cas, il y a Laurent Aubrex qui dirige les pages musique, l'armada des journalistes des pages musique. Et il y a Guy Verstraeten, journaliste télé, et, chef à sa façon, chef du glamour, de la beauté et de la brillance capillaire. On parle aujourd'hui du film L'écume des jours de Michel Gondry, du roman L'éternel de Johannes Spahr, de Bankrupt, le nouvel album de Phoenix et de la série Hannibal. On débat de tout ça et on vous montre que toute vérité est relative et que souvent elle est même ailleurs. Peut-être de votre côté, on ne sait jamais. C'est parti. L'écume des jours, c'est la première fiction 100% française du réalisateur expatrié aux Amériques Michel Gondry, à qui l'on doit notamment Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Green Hornet. Un film commandé par son producteur, une adaptation d'un roman réputé inadaptable signé Boris Vian, qu'on a tous lu quand on était ado, enfin en tout cas certains plus que d'autres. Le grand défi était de transposer sur écran tous les concepts poétiques tordus imaginés par Vian. Je pense par exemple au fameux pianoctel, le piano qui mixe des cocktails en fonction des notes jouées et des émotions ressenties, ou encore à cette voiture nuage hissée par une grue au-dessus des toits de Paris. Les effets spéciaux sont ici mécaniques et pas numériques, ce qui confirme que Gondry est le roi des bricolos. Gondry qui s'amuse avec ses trouvailles au point de reléguer l'histoire au second plan. L'histoire, c'est celle de Colin, c'est Romain Duris, inventeur oisif qui rencontre Chloé. C'est Audrey Tautou, une jeune fille en fleurs qui apprendra bientôt qu'elle a un nénuphar qui lui pousse dans le poumon. Voici un petit avant-goût de L'écume des jours.
Hey, Chick.
Hey. Bonjour. C'est ton nouveau cuisinier?
Mon avocat et mon maître à penser.
Il cuisine pour se calmer les nerfs.
Rendez-vous au frigo.
Il faut que tu bois mon pianoctel. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur.
Tu as fait quelques fausses notes.
Disons deux ou trois notes personnelles.
Elle est heureuse.
J'ai rencontré quelqu'un.
Enfin, c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude.
Moi aussi, j'exige de tomber amoureux.
Il y a une dansette convenable ce soir chez Bibi.
Chloé, voici Colin. Colin, voici Chloé.
Maintenant, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît?
Pourriez-vous rester, s'il vous plaît?
Alors, j'ai pour ma part trouvé ce film extrêmement pénible. Extrêmement épuisant, harassant même. Autant je trouve que l'imagination de Vian était stimulante pour le cerveau dans le bouquin, autant je trouve qu'ici c'est carrément étouffant. Ça nous noie sous les détails, sous l'accessoire, sous les gadgets, et ça s'en fiche pas mal du reste. En tout cas, moi, ça m'a amené à m'en ficher pas mal du reste. Laurent, non, toi, t'as plutôt apprécié.
Oui, j'ai apprécié. En fait, c'est une rencontre un peu évidente et attendue entre Vian, le génie du mot qui nous pond un roman jazzy, et puis le génie de l'image qui a montré tout son savoir-faire. Dans Be Kind Rewind, avec deux bouts de ficelle, il arrive à créer des univers complets. Et donc, il y a avec lui pour se réapproprier cet univers-là. On pouvait être déçu parce que forcément, quand il y a des attentes, il y a parfois des déceptions. Moi, je trouve que dans la première partie, en tout cas, il réussit très bien son jeu. Alors, ça part dans tous les sens. C'est gag visuel sur gag visuel. Il y a de la poésie qui vient se greffer malgré tout dans les interstices. Et il arrive à faire vivre l'univers de Vian, qui était, comme tu disais, présumé intransposable à l'écran.
Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement, de...
Mais,
espèce de...
Oui, mais pour moi...
Pas d'âme, regardez comme j'ai réussi à transposer le gadget.
Oui, mais justement, je trouve que c'est un genre en soi d'arriver à ça, un peu comme Tati, qui est dans son burlesque, qui pendant tout le film va partir de petites choses, qui sont souvent des notes toujours assez similaires, va réussir à créer une atmosphère. Et donc, il réussit ça très bien, je trouve, dans la première partie. Alors c'est sûr que si on ne pénètre pas et qu'on est insensible à ces voitures qui roulent dans les deux sens, à tout le côté un peu bricolage, parfois assez visible, puisqu'ils ne cachent pas vraiment les ficelles, hein. Parfois on sent bien que c'est du carton-pâte, mais ce n'est pas un souci je trouve, parce que l'univers est tellement fort derrière est porté par ce scénario qui dans la deuxième partie va un petit peu s'essouffler. Et là que je trouve que les limites un peu du film, c'est que quand il entre dans une ambiance un peu plus mélancolique et qu'il veut nous montrer la psychologie des personnages, bien, il nous en a mis tellement plein la vue au début que forcément on a un taux d'adrénaline super élevé, c'est difficile de redescendre et de se réapproprier une histoire qui devient un peu plus tragique. Et il l'a transformé, en fait, chez Gondry, c'est souvent comme ça, les personnages deviennent quasiment des objets qu'il manipule dans son théâtre. Et forcément, quand il veut revenir, il change de point de vue, il revient sur l'histoire et sur les personnages, on les voit encore comme des objets.
C'est ça qui est logique, quelque part, parce que dans la première partie, il travaille tellement peu la psychologie de ses personnages, je trouve, qu'on ne s'y intéresse pas vraiment, on ne rentre pas vraiment. Donc on est vraiment fasciné par tous ces gadgets, par toutes les petites choses mécaniques qui arrivent de partout. À chaque plan, quasi, il y a quelque chose d'étonnant, quelque chose vraiment...
Pas quasi, à chaque plan.
La plupart des plans, il y a quelque chose qui arrive, qui étonne, qui épate, où on se dit, c'est incroyable.
Qui sont presque tous dans le livre. Il a rajouté quelques petites choses, comme les petits fours, par exemple.
Mais il peut être posé entre chaque évocation. Ici, je trouve que c'est vrai, on te matraque, on te tabasse.
Mais on te matraque au dépend des personnages. Justement, forcément, quand tu arrives dans la partie où tu es censé t'attacher un petit peu, avoir un peu d'empathie avec les personnages, forcément, comme tu n'as pas été quelque part présenté à eux et on te les a pas vraiment, tu t'es pas attaché aux personnages. C'est vrai que dans la deuxième partie, comme ce côté gadget disparaît, s'essouffle un petit peu, parce que forcément, il peut pas non plus avoir ça peut pas fleurir de partout. Hein, tu commences.
Mais c'est quand même assez jouissif dans cette première partie.
Ah oui,
moi, je trouve que je me laisse porter par
visuellement.
Je trouve que résumer ça du gadget, c'est une image. Il travaille ses images surtout parce que c'est du gadget bricolé, mais on retrouve toute l'imagerie qu'il développe depuis 15 à 20 ans, depuis ses clips de Björk jusqu'à
ses pubs.
Voilà, exactement. Mais tout est inventif, donc ça, il faut lui laisser. C'est un cinéma plus inventif que 40 films qu'on a vus avant. Maintenant, effectivement, on a difficile à s'accrocher au personnage. Il rate son rendez-vous avec ses acteurs. Je trouve que ses acteurs, paradoxalement, n'ont rien à
Et certains sont même mauvais. Moi, j'ai trouvé que Gad Elmaleh était extrêmement mauvais. Omar Sy était mauvais.
C'est vraiment, c'est le petit musée des inventions, je trouve, de Michel Gondry. On a l'impression qu'il dit aux acteurs, écoutez, vous savez ce que vous avez à faire.
Prenez pas trop de place.
Ce que vous avez à faire. Il ne les dirige pas, il n'y a pas de direction. J'ai l'impression.
Il insiste en plus là-dessus en faisant une espèce de mise en abîme où l'histoire. Enfin, il y a cette scène comme ça où tout. L'histoire se déroule en même temps qu'elle est tapée à la machine par une armée de dactylos. Donc il y a déjà cette mise en abîme. Il met déjà le récit comme ça un peu à distance. Et donc forcément, les acteurs sont aussi des espèces d'objets comme ça qui.
Mais Quentin Duris, je trouve que Quentin Duris est.
C'est Romain.
Quentin Duris. Quentin Duris. Après, je vais vous expliquer. Tout ce qui est mot, liaison, enfin, on en discutera après. Et donc maintenant, tu m'as fait oublier le nom de l'actrice.
Audrey Tautou,
qui sont des acteurs quand même relativement impressionnants en général. Bon, ils font le métier, ils font le job, je trouve. Oui. Après, il y a Gad Elmaleh et Omar Sy qui sont là.
Mais Omar Sy, il ne faut pas lui faire un procès d'acteur. Après, c'est les mots qu'on lui met dans la bouche. C'est un des problèmes du film. C'est que dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'il y a des dialogues, tu te retrouves dans un bouquin des années 50, très littéraire. Et c'est empoulé à mort quand ils sont à table. Et ça, il y a un décalage qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'adaptation. Et je crois que de manière générale, sur le film, c'est ça le problème. J'ai l'impression que Gondry était un peu vampirisé, on parlera de ce phare tout à l'heure, par son sujet et par le bouquin de Vian, et il n'arrive pas à en faire autre chose. Il y a un moment, il est prisonnier de ses gadgets, de ses systèmes de mise en scène, et il n'arrive pas à dépasser ça, quoi.
Je trouve ça même au point où ça remet quasi en question le roman même, quoi. Qu'est-ce qu'il y a finalement derrière ce roman, à part une énergie, une vibration, une ambiance, voilà, tout le côté années 50, Saint-Germain,
il se l'est réapproprié et il l'a transposé. C'est peut-être moins du Vian que du Gondry. Et il en a fait quelque chose qu'il pouvait maîtriser à travers ses bricolages et ce montage et toutes ses inventions. Il en fait avec son propre langage. Mais c'est sûr qu'on n'a pas, par exemple, cette poésie, cette mélancolie qu'il y avait dans Eternal Sunshine.
La fin est complètement mélancolique, voire morbide.
Oui, mais elle n'est pas réussie parce que dans Eternal Sunshine, il marie toujours la fantaisie avec l'émotion en permanence. Il est toujours sur le fil et réussit à maintenir les deux. Ici, il donne tout visuellement dans la première partie. Et puis, il essaye de rattraper la sauce psychologiquement, émotionnellement derrière. Et je trouve que l'association des deux ne fonctionne pas. Moi, je trouve que sur la première partie, c'est réussi. En tout cas, par rapport à l'univers de Vian, on peut discuter, est-ce que c'est fidèle par rapport à ce que Vian voulait faire passer, etc. Là, on peut discuter, mais je trouve qu'en termes cinématographiques, c'est assez bluffant. C'est, par exemple, l'immersion qu'on ressent sans 3D, hein, juste avec des bouts de papier et de la colle, est parfois supérieure à celui qu'on peut trouver dans 3D industrialisé, quoi. Je trouve
rien que pour ça, c'est quand même très fort, c'est quand même bluffant sur plein de manières de filmer les choses, les envisager.
Quand tu as vu un film que j'adore de lui, qui est La Science des Rêves, qui est Hans. Moi, j'aime beaucoup Gondry en général. J'ai aimé quasi tout ce qu'il a fait, à part de Green Hornet, que j'ai trouvé un peu plus faible, mais même de We and the Hyde, Human Nature au début, son premier film. C'était vraiment des propositions cinématographiques vraiment intéressantes. Et dans La Science des Rêves, il développe déjà tout ce côté, tout ce visuel, cette espèce d'onirisme, matinée d'effets spéciaux, bricolos. Donc, quand on n'est plus vraiment étonné quelque part, on est toujours bluffé, je trouve, dans ce film par sa maîtrise, mais on n'est plus étonné, on se dit pas, quand on connaît La Science des Rêves, on se dit pas, waouh, c'est.
Mais ça, tu peux avoir ce genre de rendez-vous avec un film des frères Coen, par exemple, où tu sais que tu vas avoir deux, trois morceaux de bravoure purement visuel. Quand elle fonctionne, c'est gay. Je trouve qu'ici, il y a quand même des moments qui fonctionnent.
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand comme moi, on n'est pas rentré dans dans les personnages, vraiment, qu'on n'a pas adhéré à l'histoire, si tu veux. Une fois qu'on connaît déjà un petit peu ces trucs, quelque part, forcément, ça met de la distance. Et c'est ce qui m'est un peu arrivé dans le film. Même si je trouve que sur la deuxième partie, il y a quand même une proposition aussi, c'est de dire, de rétrécir les espaces,
de passer
au noir et blanc.
J'ai plus accroché, paradoxalement, sur la deuxième partie.
Moi aussi.
Ce qui est quand même assez finaux, quelque part.
Il commence à raconter quelque chose.
J'étais trop saturé de la première partie pour entrer dans une autre proposition. Voilà, il aurait fait un deuxième film avec l'univers de cette seconde partie. Je pense que j'aurais pu adhérer. Mais là, c'était trop, la rupture était un peu trop brutale.
Mais je crois que c'est ce que tu disais par rapport aussi au bouquin, la difficulté d'adapter. Il a la réputation d'être inadaptable. C'est aussi parce que c'est un nouveau roman. Donc c'était dans l'écriture même, dans la construction du bouquin, qu'on trouvait l'originalité et pas uniquement qu'il imaginait des petits ces nuages accrochés à une grue. Il y a toute une construction du bouquin que forcément on s'est pas retrouvé dans le film et qui faisait toute celle du bouquin.
Est-ce que quelqu'un l'a relu, le bouquin, récemment?
Moi, je l'ai un peu relu.
Tu l'as relu?
Et paradoxalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de néologismes, mais les constructions des phrases sont très simples et donc cette simplicité, on la retrouve pas du tout dans le film. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très très oppressant, très faux, c'est très dense, très
harassant,
très harcelant. Par exemple, quand on voit la bande-annonce, on a l'impression d'un truc presque à la Amélie Poulain, comme ça, très léger, très amoureux.
Justement, heureusement que c'est pas ça.
Et heureusement, d'un autre côté, heureusement, c'est pas ça. C'est vrai qu'on arrive dans un truc qui est très, très dense, très, et à la fin très morbide, très dark. Ouais, voilà, c'est la qualité et la limite du film. Quoi.
Bon, allez, une cote sur 10, moi je lui mets 3.
6.
Toujours dur.
7, bon.
Moi je vais. Allez, 7.
7, ouais.
Maggie, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, suce, moi.
Bah, attends, moi
tu m'avais dit que c'était extrêmement pénible.
C'est pénible, mais je serais incapable, même dans 8 vies, de faire le tiers du quart de ce que ce garçon peut faire. Donc, je dois quand même.
Et sur 10 films à l'affiche, il y en a à choisir, a priori.
Ça reste.
Je ne regrette pas de l'avoir vu.
Bon. Alors, on va noter que dans Focus, Jean-François Plougers, qui est notre maître cinéma, a mis 4 sur 5 à ce film et dit que Michel Gondry adapte avec brio le roman de Boris Vian dans un film enivrant, fantaisiste, mélancolique, habité par Romain Duris et Audrey Tautou. Voilà. Le disque du jour, c'est Bankrupt de Phoenix, cinquième album studio du groupe de Versailles, encore une fois produit et mixé par Philippe Sdar, l'empereur de la French Touch. Voici, d'entrée de jeu, un tout petit bout du single Entertainment. We'll be right back. Banquet, c'est un disque qui a été accouché dans la douleur, apparemment, d'après les membres de Phoenix, qui sont de plus en plus exigeants avec eux-mêmes, c'est eux qui le disent. 4 ans de gestation pour un disque qui ne se livre pas à la première écoute, malgré la présence des codes habituels du groupe, la voix éthérée, le rétrofuturisme des sonorités synthétiques, par exemple. Un album de pop un peu crypté, très dense, multicouche, qu'il faut pouvoir dépiauter pour l'apprécier pleinement. Ils le disent eux-mêmes, hein. C'est un disque égoïste dans le sens où on essaie de plaire à personne. Chaque morceau contient un petit cadeau à découvrir, un peu comme un bonbon qui aurait un cœur fondant à l'intérieur. Fin citation. Personnellement, j'ai trouvé ça tout à fait jouissif, ce moment où on trouve enfin le cadeau et où on a enfin le droit de le déballer. Depuis que je l'ai trouvé, ce disque tourne en boucle dans mon iTunes. Et je trouve que c'est une BO parfaite pour une après-midi qui s'annonce bien, pour rouler... Je veux dire, les portes ouvertes, mais ça c'est un peu dangereux, les fenêtres de la voiture ouvertes. J'ai beaucoup aimé. Qui a envie de parler de ce disque? Eh bien, ouais. Le chef des pages musique, Laurent.
Ouais, je suis content que vous ayez apprécié. Pas mal résumé les choses en parlant d'objets pop, de bonbons et tout ça, de ce qu'on trouve à l'intérieur. Okay. Et c'est vraiment ça, c'est un objet complètement pop, il suffit de voir la pochette, c'est quasi du pop art. Et c'est un peu tout ce qu'ils font depuis le début, mais là, depuis Wolfgang Amadeus, donc l'album précédent, ça a vraiment pris une autre dimension. Je crois qu'ils ont mis 3 albums comme ça, un peu cherchés. Alors, je crois qu'ils ont longtemps été très mal compris, par, notamment chez eux, en France. Où, je crois qu'on les a pas mal accusés de cynisme, alors que c'est très premier degré.
De cynisme.
Oui, de cynisme ou d'espèce de détachement comme ça, un petit peu ironique, un petit peu ce qui pollue, par exemple, un peu la French Touch, la pop un peu française, comme ça, parfois, il y a une espèce de prise de distance. Alors qu'ici, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas de Phoenix. Ce n'est pas des mecs cyniques, c'est au contraire des mecs assez premier degré, mais qui réfléchissent. Donc, en effet, c'est de la pop, c'est instantané, c'est direct, mais il y a plusieurs couches, il y a plein de choses à trouver derrière, c'est malin, il y a la distance, ouais, la distance, mais sans cynisme, du pop art. Enfin, il y a par exemple un titre ici qui s'appelle « Draker Noir », enfin, qui fait directement référence à un parfum des années 80-90.
Olivier a porté avec tout le bon goût qu'on lui connaît.
C'était il y a longtemps. Hein.
Ouais, mais voilà,
ça fait référence. Je ne savais pas que ça existait encore, j'ai appris plein de choses. Exactement.
Ça fait référence à des trucs très cheap, mais en même temps qui renvoient à l'adolescence, par exemple.
Ouais, exactement.
Et c'est vraiment ça. C'est un groupe complètement juvénile, complètement... Enfin, je peux citer, par exemple.
Oui,
et une parole, mais c'est complètement... C'est, it's a jungle, 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 junkie, junkie, jumbo. Voilà.
Excellent.
Ça, c'est excellent. C'est sur Draker Noir, justement. Voilà. Et ils sont capables d'écrire encore des couillonnades pareilles, et ça passe. Et en même temps, il y a d'autres choses derrière. Il y a un discours beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus profond aussi sur les choses. Il y a un métadiscours aussi sur la pop, sur l'état de la pop. Et voilà, tout ça,
on parle bien. Ah ouais, métadiscours, tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que
Un discours de la pop sur la pop. Voilà. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose d'instantané, direct. Et en même temps, ça ne correspond pas du tout au canon actuel. Ce n'est pas du tout l'ADN. Ce n'est pas du tout un truc R&B. Et pourtant, ça
il
parle...
Il est un peu poétise, il est quand même...
C'est un truc qu'il cultive depuis le début.
Et le synthé un peu pourri et tout.
Et une note de synthé.
Ils y vont ici. Ouais, hein. Enfin, moi, c'est ce qui m'a.
Toi, t'as pas aimé.
Je n'ai pas trop accroché parce que autant j'avais aimé le précédent, ici, j'ai pas retrouvé cette instantanéité dans les mélodies. Tout de suite, c'est quelque chose qui. Mmh. Et alors, j'ai peut-être pas déballé assez les couches pour aller tout au fond après 15 écoutes chercher le noyau.
Mais tu aurais dû.
Mais oui, mais c'est qu'il y a déjà peut-être un petit problème s'il faut aller chercher, enfin, déballer 15 fois.
J'ai pas besoin d'écoutes pour y trouver des choses. C'est quand même des grandes mélodies, c'est des types qui savent. Enfin, c'est vraiment très travaillé, c'est de la pop synthétique.
C'est pas déplaisant.
Légère, mais faite avec beaucoup de sérieux, quoi. Tu sens beaucoup, c'est très construit, comme les précédents albums, je trouvais, on trouvait la même sonorité.
Mais l'album précédent, Wolfgang Amadeus, qui a cartonné, qui a eu un Grammy, ils ont terminé une tournée incroyable au Madison Square Garden. Donc c'était vraiment. Cet album était parfait du début à la fin, de la première à la dernière chanson, et c'était vraiment impeccable.
C'est parfait. Alors, c'est style Phoenix, quelque part. C'est un style, quoi. C'est une pop un peu. C'est sympa, c'est cheesy, c'est un peu.
C'est cool.
Mais c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de rugosité non plus. Il n'y a pas beaucoup d'aspérité.
Ah, mais c'est un genre en soi. Et je trouve que c'est pas forcément le plus facile à manier. Et dans ce genre-là, je trouve qu'ils sont. Sur l'album précédent, ils étaient parfaits. En effet, ici, je trouve qu'il y a une série de chansons qui sont moins bonnes. L'album est plus inégal. Mais voilà, quand on vient d'un espèce de mini chef-d'œuvre, on peut se permettre après d'être.
Ouais, mais je trouve que ce qui, moi, me. Plaisait pas avant Amadeus, ici ressort davantage. Je suis un peu noyé sous les couches de.
de synthé, je trouve que c'est un peu too much, quoi. Et quand tu parlais de premier degré, je trouve qu'il y a quand même une certaine poche chez eux. Je ne suis pas sûr que ce soit si léger que ça peut en avoir l'air. J'ai l'impression que le fait de revenir avec des trucs comme bourgeois, dracard noir et tout, c'est quand même bien
bourgeois,
senti.
Bourgeois, tu veux dire. Voilà. Bourgeois.
C'est ça, c'est quand même bien senti, c'est ce côté un peu... on est dans le cool et on le maîtrise, quoi. Et je pense qu'ils connaissent quand même bien les ficelles.
Je pense qu'il y a du second degré et c'est avec ça qu'on fait la meilleure pop aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas d'ironie, quoi. Oui, il y a une vraie sincérité.
Ouais,
et...
ils ont essayé de faire le meilleur album possible. Enfin, je pense que c'est ça leur démarche.
Bon. Quand on voit les mecs en interview, ils sont avec, voilà, je pense pas qu'ils se la jouent trop. Ils continuent à faire leurs interviews en anglais avec un accent français complètement camembert.
Je trouve que quand tu entres, la première entrée dans l'album, c'est
incroyable.
Oui, mais c'est incroyable. Moi, je me suis dit, jamais de ma vie, je vais adhérer à cet album quand j'ai entendu la première note.
Ouais, c'était single, c'est Entertainment.
Qui est pas la meilleure chanson.
Non, pour moi, c'est pas le meilleur.
De pop-rock extrême oriental matinée. Enfin, c'est assez curieux.
C'est assez kitsch. Il y a des sonorités asiatiques.
C'est assez kitsch. Donc, je me suis dit, je vais jamais rentrer dans le disque. Ensuite, il y a le deuxième morceau, The Real Thing, je trouve, qui est vraiment un tube en puissance, qui a vraiment un côté catchy, un côté entraînant. Et puis après, ça avance entre bonnes et moins bonnes chansons, mais globalement ça reste, je vais pas dire c'est de l'easy listening parce que ce serait exagéré, mais ça reste, voilà, tu peux
mais ça reste de la pop. Je crois qu'ils veulent faire de la pop, ils ambitionnent de ne faire que de la pop, mais du mieux possible. Et c'est vrai, je suis comme toi, moi c'est pas du tout les sonorités qui a priori me parlent. Sur les albums précédents, là aussi c'est des sonorités, je me dis wow, je pourrais jamais. Puis finalement je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, et je me suis rendu compte, j'ai accroché à cet album, à des morceaux qui restent, et je pense qu'il y en a qui vont rester. Je suis pas sûr que tout va rester, mais il y a des morceaux qui sont vraiment efficaces, il y a des bonnes mélodies, et des trucs très très forts dedans.
Certains morceaux, dans Bankrupt en particulier, je trouve qu'il y avait un petit côté Dire Straits.
Que dirais-tu dans ce morceau-là, justement, il est très différent, le morceau qui donne le titre à l'album n'est pas le plus représentatif de l'ensemble des morceaux.
Mais il est très bien, moi je l'aime beaucoup.
C'est plutôt instrumental pendant toute une partie du morceau. Puis après, ça devient une
espèce
de balade.
Album, il faut une espèce d'instrumental.
Ça devient une balade, c'est un assez bon morceau. Ouais.
Et ce qui m'a fait assez plaisir aussi, j'avoue, c'était que Zdar n'est pas trop présent dedans. Il a fait des albums où il produisait, je pense au dernier Beastie Boys par exemple, où c'est presque un album de Zdar featuring Beastie Boys. Ici, c'est pas le cas. Tu le sens de temps en temps, la French Touch, le sens Cassius, etc. Tu le sens de temps en temps. Mais il a mis un peu la pédale douce sur son omniprésence. Ça reste du phénix, quoi.
Sa voix de falsetto, là, m'a un peu agacé aussi. Je trouve que... Tu parlais de voix éthérée. Je trouve qu'elle a un petit côté pas crispant, quoi.
Empêché d'entrer, en fait, dans l'univers, le phénix. Et là, je sais pas, j'ai mis ça de côté. Et c'est pas les types de voix que je trouve les plus intéressantes, mais le reste est tellement bien emballé que...
Je trouve que c'est ça qui les rend attachants, ce groupe aussi. Ce qui ressemble à rien, en gros.
Ils ont leur son.
C'est 4-5 français.
Ils ont vraiment une identité.
Même Thomas Mars, au départ, il est batteur du groupe, il est vraiment derrière, il a une tronche. Il est à moitié à mort,
en
interview,
il semble à rien. C'est le mec
C'est quand même pas... Il y a un côté cool et trendy à mort. Il fréquente le hype de New York.
On ne peut pas les présenter pour des petits naïfs qui sortent de nulle part.
Ils connaissent très bien les coachs. Je pense que
c'est pas des tricards et ils sont pas cons. Ils savent très bien où ils mettent les pieds. Mais justement, c'est parce qu'ils savent où ils mettent les pieds qu'ils sont malins et qu'ils arrivent à faire un truc à la fois sophistiqué et à la fois qui garde cette énergie, je trouve, très juvénile, très adolescente. Et ça... Ça, c'est très compliqué à...
Mais sur l'album, ce qui est intéressant, pour finir personnellement là-dessus, parce que vous avez tout dit, l'album, le CD, il est vendu, c'est le collector du début, je pense qu'il s'en est vendu avec un deuxième CD, qui reprend plus de 70 extraits de sessions.
D'enregistrement.
Voilà, et c'est vraiment intéressant pour la construction, voir comment construire ce truc, où c'est en fait très compliqué, on croit que c'est de la pop très simple, et puis tu te rends compte qu'ils ont dû faire des choix dans 80, 100, 150... instrumentalisation.
Oui, je vois ça comme des empilements, moi, d'instruments.
Mais tu vois le boulot qu'il y a derrière, quoi.
Chaque instrument est vraiment choisi de manière super méticuleuse, avec des vieux trucs qui ont été retrouvés dans des... Enfin, je pense qu'il y a, au niveau de la production, il y a quelque chose d'assez particulier, d'assez pointilleux, malgré tout. Donc, comme tu dis, je trouve que tu as bien résumé la chose en disant qu'il y avait une légèreté et de la sophistication en même temps. Moi, j'ai noté, et je suis assez mécontent de ma phrase, que Thomas Mars, c'est pas tellement qu'il a une belle voix, mais il chante bien. Et ça veut dire quelque chose.
Oui, oui, oui. Il a une coupe de cheveux qui ressemble à la tienne aussi.
Ouais. On est, on a de la famille en fait.
Ah, mais c'est ton père, non? Bon, je mets 8 moi à cet album. Et toi, Guy?
Je vais mettre 6.
Ouais, 5. Ouais.
Tu es 7.
7.
On ne se comprend pas. Il va falloir arrêter cette émission. Bon, eh bien, à noter que Phoenix sera en concert chez nous au festival Rockwerther le 5 juillet prochain. Eh bien, moi, j'irai voir. Ouais. On a décidé aujourd'hui de vous parler de la série événement Hannibal. Hannibal comme Hannibal Lecter, comme dans le Silence des agneaux, le célèbre psychiatre cannibale, sauf que ce n'est pas lui le héros de cette série, développée par Brian Fuller. Brian Fuller qui est, pour rappel, l'artisan de la très jolie Pushing Daisies, oui je sais que tu n'as pas aimé Guy, et de Dead Like Me, des fantasmagories a priori plutôt légères. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Ici, le personnage principal, c'est Will Graham, un profiler du FBI interprété par Hugh Dancy, un drôle de type pas tout à fait adapté socialement, qui se frotte d'un peu trop près au tueur en série qu'il doit démasquer. Je vous passe rapidement de quoi vous faire une vague idée de ce à quoi on a affaire.
Mr. Graham, Special Agent Jack Crawford. Can I borrow your imagination?
You FBI?
I'm a special investigator.
He can enter the mind of a killer in a way that no one ever has.
Are you okay?
Where's your head?
Will Graham deals with huge amounts of fear.
It's the price of imagination.
I need him out there. I'm recommending a psych eval. There's only one person on our list. Dr. Hannibal Lecter.
What do you see, Dr. Lecter?
An interesting place to start.
Donc, Graham va chez le psy, le fameux Hannibal Lecter, lequel est interprété par l'immense acteur danois Mads Mikkelsen, raison pour laquelle j'attendais cette série un petit peu comme la venue du Christ sur la Terre. Et au final, ça a été une très très grosse déception pour une série que j'ai trouvée platement américaine, peut-être un peu plus glauque que la moyenne, peut-être. En tout cas, tirée par les cheveux, à la limite de la grotesquerie, bourrée de personnages inutiles, alors que Mikkelsen, lui, est tout à fait sous-employé. Je trouve qu'il est limité presque à un rôle de figuration. Guy, quel est ton avis à ce sujet?
Par rapport à Mads Mikkelsen, il n'est pas impossible, je pense, que son rôle prenne de l'ampleur au fil des saisons, si multiples saisons.
Il est supprimé. Hein.
C'est vrai, sacté.
D'accord.
Trop de réactions, trop d'images violentes. NBC a décidé
de. C'était pas extraordinaire.
En plus, mais la violence des images a eu raison de la série.
Mais en plus, ils ont joué de malchance parce que je pense que l'un des épisodes était programmé le jour où il y a eu l'attentat de Boston. Donc ils ont dû le déprogrammer et passer au suivant qui était un peu moins en raccord avec la thématique. Maintenant, donc voilà, j'ai remis le feu de me taire quand j'ai commencé à parler de ça.
Parce que la série, je pense, peut se tenir en une saison.
Oui, mais bon, quelque part, je pense que je me demande s'il n'y a pas de ça, quoi. Qu'ils disaient, le rôle va évoluer. Le rôle va évoluer. Alors, bon, Mikkelsen, effectivement, il joue bien dedans, il est assez bien. Maintenant, ça reste. Je trouve que c'est pas une mauvaise série. Il y a des éléments positifs. Je trouve qu'il y a une mise en scène qui est quand même très très soignée. Il y a une photo assez soignée, des effets spéciaux qui sont.
Mais je trouve pas que tout ça désamorce justement le côté.
Heureusement, après, quand même, de temps en temps. Si ça désamorce pas, dès qu'on fait. Cultiver des hommes pour en faire une champignonnière, qu'on leur découpe des steaks pour faire des ailes d'ange.
C'est ça, moi c'est ça qui m'a dérangé. C'est ça qui me dérange, qui me dérange principalement. Je trouve que le procédé donc de ce policier, de ce profiler qui arrive à un peu décortiquer ce qu'il y avait dans la tête de l'assassin en revenant un petit peu dans sa tête au moment où il a commis son crime, je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, ce qui fonctionne pas, c'est vraiment la surenchère. C'est comme tu disais, le côté, comme tu viens de dire, faire pousser des gens dans les champs. Enfin, pousser des champignons sur les gens, découper des ailes d'ange dans. Il y a une exagération. On dirait les experts
Il
y a un côté expert. Et surtout, bon, voilà, les États-Unis ont beau être un pays violent. Je pense que toutes les semaines, il n'y a pas quand même 9 serial killers qui coupent des. On n'y croit pas. C'est excessif. Pour autant, le personnage de Will Graham est plutôt bien interprété. Hugh Dancy est pas si mal.
Il y a une complexité quand même des personnages qui est intéressante, quoi. Avec comme tu disais, cette photo assez un peu nordique comme ça. Hein. Je trouve que par exemple la bibliothèque cabinet d'Hannibal. T'as l'impression d'être dans le Danemark ou
ouais, tout à fait, des plaisirs de la chasse dont on parle.
C'est, c'est soigné, les décors, la photo, ça c'est des réussites. Ouais. Dans la mise en scène, c'est sérieux, c'est costaud, et c'est probablement ce que NBC a fait de mieux au niveau drame depuis un petit moment, mais ça reste contrebalancé par des gros problèmes d'exagération et de surenchère.
Enfin, on a parlé de Jeffrey Dahmer il y a quelques épisodes d'ici. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir quelques solides sociopathes qui sont capables du pire, présageons de rien.
Sur la série, je trouve qu'en fait, elle prend l'intérêt qu'on la remet dans son concept, dans son... Quand on la remet dans son contexte.
Eh bien, je t'en prie, Olivier, toi qui as lu...
Mais Animal, c'est vraiment un personnage de la culture populaire. Ça démarre dans 4 bouquins qui sont écrits par Thomas Harris, Red Dragon, Silence des Agneaux, Hannibal, qui tous ont donné des films bons ou moins bons qui se suivent ou ne se suivent pas. Il y avait eu Sixième Sens, pour ceux qui se souviennent du premier film de Michael Mann. Il y a eu évidemment Le Silence des Agneaux. Il y a eu... Tout ça a été adapté de manière ou une autre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, tous les personnages qui apparaissent dans la série apparaissent, interprétés par d'autres acteurs, dans les films et dans tout ce qu'on a vu. Et le personnage ici, qui a joué Hannibal jeune. Et donc ici, c'est un spoiler énorme par rapport à la série, mais tout le sel est là. En fait, Will Graham est celui qui, on va le dire, on va prévenir. Il faut toujours prévenir.
Attention, spoiler.
Les bouquins sont là.
Les bouquins sont là. Tu vas sur Wikipédia, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais tu vas sur Wikipédia, tu le comprends. Le personnage Will Graham est celui qui arrête Hannibal au début de Silence des Agneaux, avant que Sterling vienne s'installer. Donc, on peut se douter qu'ici, l'arc qui va être fait est un complément entre tous les bouquins et qui vient rajouter plein de choses. Parce que le personnage de Laurence Fishburne est celui qui est joué par Scott Glenn dans un précédent film. Il y a plein de clés comme ça.
Le chef de la cellule.
Voilà, le chef qui ici a un rôle très important, mais qui apparaît dans tous les films qu'il y a eu autour de ça. Donc, la série commence à prendre intérêt quand on a suivi ces personnages joués par d'autres, interprétés par d'autres. Et ça donne du sel à l'ensemble. Mais c'est vrai que sur le reste, je te rejoins tout à fait sur la série en elle-même. Il y a des côtés très experts, très répétitifs. Tous les épisodes commencent avec un meurtre incroyable.
D'ailleurs, les parties laboratoires, je trouve, sont un peu superflues ici.
Ça, tu sens les codes américains qu'on vient mettre là-dessus qui sont un peu inutiles. Mais par rapport aux personnages, ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'on va en faire, j'attends de voir la confrontation entre comment on va arrêter Hannibal, ce qu'on n'a jamais vu dans les 5 ou 6 films qu'on a déjà tirés autour de ça. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a de l'intérêt, que la série est intéressante pour ceux qui ont aimé le personnage.
Ça doit quand même un peu les choses. Ça doit quand même venir compliqué pour les séries de se dire qu'elles doivent penser au long terme pour construire, mais avec le risque de plus en plus fort d'être coupé. Et donc d'avoir l'espèce d'embryon de...
C'est ce qu'on disait par rapport à Luck, justement, une autre série qui a été arrêtée rapidement. C'est que tu installes vraiment une complexité narrative assez impressionnante et qui est noyée finalement et coupée dans l'espace.
Donc dans tous les cas, tu finis par être une forme d'échec puisque tu peux jamais, dans quelques rares cas, mais tu peux jamais aller jusqu'au bout de l'expérience. Ou alors tu jettes tous tes œufs directement dans toutes les cartes.
C'est ce qui se passe dans la plupart des séries américaines de ces 2-3 dernières années. Le premier épisode, sans doute même les 10 premières minutes du premier épisode, tu as la présentation de tous les personnages, leur relation les uns avec les autres, et voilà.
On prend pas de risque, quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est affreux de regarder un truc pareil, quoi.
Petite anecdote pour revenir à la série. L'acteur qui joue Will Graham, c'est Hugh Dancy. Et alors, il faut savoir qu'il est marié avec Claire Danes. Claire Danes, qui est... Des cours de folie et de personnages perturbés.
Je les
imagine à la maison en train de se dire « Putain, moi, j'étais super perturbé. »
Ils
se repèrent des scènes de personnages d'agents fédéraux perturbés. Et ça, c'est assez...
Je comprends mieux maintenant, parce qu'autant Mikkelsen, on a l'impression qu'il n'a pas de langue. Enfin, il est une espèce de mono-expression comme ça, qui est génial. Incroyable, mais souvent je trouve que Hugh Dancy, c'est ça, verse un peu dans une espèce d'hystérie comme ça, très en effet Claire Danes dans Homeland. C'est tout le problème de la série qui est
quand ils se retrouvent à table, parce qu'il y a beaucoup de scènes de repas, quand ils se retrouvent ensemble.
Quand ils découpent son petit morceau de viande, on se demande d'où elle vient.
Ça, c'est absolument abominable.
C'est la mise en scène, je trouve vraiment.
Ouais, tout à fait.
Chaque épisode.
Il y a du côté Bergman presque dans ces scènes, je trouve.
Chaque épisode est intitulé.
Non, mais je vais juste signaler que chaque épisode est intitulé d'après un plat. Donc le prochain, je pense qu'il va être diffusé, s'appellera Trou Normand, par exemple.
Ah.
Tout à fait.
Trou Normand.
Beau choix.
Ça va être le climax de l'affaire.
Bon, sur 10, combien 5.
Je reste sur mes 6, moi.
6, pareil.
Moi, 7.
7.
Bon, ben voilà, Hannibal, qui égrène ses épisodes depuis le début du mois d'avril sur la chaîne NBC, qui donc, comme Laurent nous l'a annoncé, est annulé. Le dernier objet culturel qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. C'est un roman, le tout premier de Johann Sfar. Oui, parce qu'on prononce Johann, hein, je vous l'annonce déjà. Le Sfar, celui du chat du rabbin de Gainsbourg, vie héroïque, qui est aussi occupé apparemment à écrire une série, à faire bien d'autres choses encore. Il est partout, tout le temps. Il le dit lui-même, le médium est secondaire. Son livre s'intitule L'Éternel, donc comme les Juifs appellent leur Dieu. Et effectivement, le héros de ce roman est un Juif ukrainien, mais il est surtout un vampire. Et par là aussi, quelque part, éternel, tombé en 1917 sous les balles ennemies. Et quand il revient parmi les vivants, sa promise s'est mariée à son frère et elle attend un enfant. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, j'ai essayé de faire simple. C'était l'argument de départ de ce livre en deux parties qui se déroule sur une centaine d'années et qui mêle les destinées d'une foultitude de personnages. Une chose est sûre, bah, Sfar écrit très bien. Il écrit drôle, il a du style, il sait comment générer des images parlantes. Il ne fait pas que des petits Mickey, d'ailleurs. Je trouve que c'est un écrivain qui s'installe. L'autre chose qui est sûre, c'est que ce livre ne sert absolument à rien, à part sans doute à occuper son auteur. Il ne raconte rien du tout, ça ne va absolument nulle part. Et quand on a la confirmation qu'on s'est fait avoir à la fin, ben on a un petit peu envie de foutre des baffes à Johann Sfar. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça complètement scandaleux de nous imposer une chose pareille. Il paraît qu'il a des contrats avec Albin Michel pour faire plusieurs romans, donc tous aux abris.
La France, ils sont unanimes, ils sont tous emballés.
Ah oui, ils adorent. Oui. Olivier, toi qui, a priori, c'est plutôt ta came, ce genre de truc.
Bah, écoute, tu as très bien résumé les choses, puisque tu as ressenti avec le livre de Johann Sfar, ce que à peu près tout le monde ressent avec ses bandes dessinées. C'est-à-dire que ça démarre super bien, c'est bourré d'idées, c'est érudit, c'est brillant. Et puis souvent, ça fait plouf. Ça se finit en plein milieu, c'est inconstant, il produit énormément, et c'est ça le problème de Sfar. C'est un type qui a déjà écrit une centaine de bandes dessinées. Tu l'as dit, il a fait Gainsbourg, il a signé pour plusieurs bouquins, il est directeur d'exposition, enfin, il fait plein de choses. Il a à peu près notre âge, donc il produit énormément.
Notre âge, comment?
Enfin, plutôt le mien, pardon, excuse-moi. J'ai raté la folle, faut que ça t'approche. Donc, près de mon âge. Et donc, voilà, il produit beaucoup, c'est surabondant, et on retrouve toujours dans son œuvre un côté inconstant, un côté légèreté qui passe très bien en bande dessinée, qu'on peut se permettre. Le chat du rabbin, petit vampire, grand vampire.
Fausse légèreté, hein, parce que le chat du rabbin...
C'est érudit, mais il y a une légèreté dans la manière de faire. Il est dans l'énergie, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même dans sa manière de fonctionner. À peu près tout ce qui sort de lui est mis sur papier ou sur dessin. Donc il ne fait pas beaucoup le tri.
17 pages par jour, le roman, il prenait 17 pages par jour.
Ça ne me donne pas.
Je ne suis pas sûr qu'il fait beaucoup de tri dans les 17 pages qu'il a écrites.
C'est ça le problème, voilà. C'est qu'il ne fait pas de tri.
Et justement, c'est quelque chose qui fonctionne en BD, qui peut se permettre en BD. Cette sorte d'inconstance qu'on peut se permettre parce qu'il y a le plaisir des dessins, il y a le plaisir de la série, il y a le plaisir des ambiances. Ici, forcément, sur un roman, je pense que c'est une écriture un peu différente qui ne fonctionne pas. Ça manque de romanesque. Tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'histoire et on retrouve toutes les thématiques sfariennes dans un seul bouquin. Autant en bande dessinée, dans les autres projets, il peut parler de judaïté d'un côté, il peut parler de philosophie de l'autre. Ici, il a tout remis en même temps dans le même bouquin.
Un peu trop.
Mais voilà, c'est exactement ça. C'est le défaut des premiers romans.
On peut en vouloir à Albin Michel presque plus qu'à Johann Sfar, parce qu'il n'y a pas de travail d'édition derrière.
Oh, tout à fait.
Quelqu'un qui lui a dit, écoute mon ami, là tu enlèves 100 pages, il y a des longueurs, on retravaille. Il est en roue libre, quoi. C'est un cerveau en fusion et il a répandu sa lave.
C'est de l'écriture automatique quasi.
Oui, c'est ça. On sent que ça vient, ça sort tout seul. Et alors, en BD, il a quand même fait quelques albums dans ce trip-là sans ceinture, c'est notamment Tokyo, un de ses derniers, qui est complètement imbuvable. Donc il y a le meilleur et le pire, en effet, quand il laisse liberté à cet imaginaire foisonnant, ben, ça peut déraper.
Toi, Guy, tu m'en veux de t'avoir imposé ça?
Oui, je te l'ai dit. En fait,
tu m'as même envoyé un SMS rageux.
Je trouve ce roman tellement vain, en fait. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi il a tellement de choses à dire, ce garçon, manifestement. Pourquoi consacrer autant de temps à faire ça? Et pourquoi m'en prendre autant? Parce que ça dure très très longtemps pour dire effectivement pas grand-chose. Et puis bon, voilà, après, il y a la sensibilité de chacun. Moi, les histoires de vampires, bon, a priori, c'est pas trop mon truc. J'aime bien le début. J'aime bien le côté cosaque contre l'armée, les batailles. J'aime contre l'armée prussienne. J'aime bien les batailles. J'aime bien les rendus. Il y a des rendus qui sont intéressants. Maintenant, une fois que ça commence à partir dans les vampires, et puis que ça surenchère dans les arbres qui parlent, les mandragores. Lovecraft,
c'est amusant avec Lovecraft.
C'est amusant.
C'est de Rocco aussi, Freddy.
C'est amusant, mais ça, c'est de nouveau, c'est automatique, quoi. C'est automatique. Oui, mais voilà. Et parfois, il y a des moments, donc parfois, il retombe sur une espèce d'humour absurde au milieu de 40 pages de premier degré. Et alors, il met, pour désamorcer vraiment ces 40 pages, il met vraiment il y a une phrase d'humour un peu absurde où on sourit, puis on se dit, mais très bien que tu désamorces ton truc, mais pourquoi t'as mis 40 pages à te prendre la tête, à faire un truc qui n'a quelque part ni queue ni tête? Et c'est ça qui m'a dérangé. C'est vraiment de me dire, alors, le style, oui, c'est propre, mais c'est pas, c'est propre et fluide, mais c'est pas brillamment écrit non plus, quoi.
Moi, si je retrouve la page, je vais vous en lire un.
C'est pas du Houellebecq, on est d'accord.
Je vous en lis un petit morceau comme ça, vous... toi, téléspectateur, toi, auditeur, tu peux te rendre compte d'un peu ce à quoi tu vas échapper, parce que tu ne vas pas le lire.
Je ne sais pas si c'est vrai, on reparlera.
À l'image du jeune homme que l'on gâte pour la première fois et qui tente sans succès de retenir le jaillissement séminal, Jonas n'avait pas de contrôle sur son rire. C'était une force du ventre, plus puissante que les passions morbides. Le vampire rit alors très fort. Pour la première fois depuis son trépas, il s'autorisait à faire énormément de bruit. L'arbre se marrait encore plus fort et tous les pendus, agités par le tressautement des branches, se mirent à battre des fémurs. Voilà, je pense que tout est dit.
Une phrase pour montrer qu'il y a d'autres genres, ou plus direct, justement, comme tu disais, il y a parfois des décalages de ton dans le sens. Il y a un dialogue qui se fait avec Rebecca dans la deuxième partie du livre. Vous êtes un vampire, oh, on n'est pas obligé de verser tout de suite dans les remarques stigmatisantes.
Voilà,
ça me fait marrer.
Moi, je trouve ça drôle.
C'est exactement ce que je te dis, c'est qu'il y a des moments où tu as un deuxième degré, tu as des choses vraiment drôles, et tu as un premier degré qui est pesant pendant 85% du bouquin.
Il a essayé de soigner l'expressionnisme européen avec la comédie américaine. Et c'est vraiment ça, quoi. Une espèce de noirceur comme ça, un peu Europe de l'Est, et puis en même temps, des punchlines.
Il y a une envie de punchline qui ne fonctionne pas toujours. Mais je vais citer Beck Bédé qui avait fait un papier sur lui dans le Figaro. Je trouvais qu'il résumait bien le bouquin. Il dit « Éternel, c'est Twilight en remplaçant Robert Pattinson par Mange-Claude Cohen ». Donc Mange-Clou, le roman de Cohen, c'est un roman vraiment gargantuesque avec cinq personnages de cousins juifs. Et donc, effectivement, il y a de ça. Il y a un mélange de Twilight et puis de références littéraires autour de l'image du vampire.
J'avais dit Rabbi Jacob chez Twilight. Mais bon, moi, j'ai
d'autres références.
Parce qu'on sent quand même ce fond d'érudition et de la culture yiddish et tout, qui est quand même présent et qui, si sous la grimace, il y a de l'érudition. Est-ce qu'on peut l'y reconnaître et une grande liberté quand même?
Et en même temps, pour un vampire juif, il a une culpabilité très chrétienne, quoi. Oui, il doit tout le temps se justifier. Il essaye de.
Il y a vrai qu'il y a un sous-texte par rapport à ça.
C'est un juif.
Et on doit s'attendre à voir beaucoup de chanteurs, auteurs de BD écrire des romans, puisque c'est son pote Mathias Malzieu qui l'a décomplexé et qui l'a amené à écrire ce roman. Donc ça a peut-être en décomplexé lui aussi.
Bon, quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, on va se dire là. 3 pour moi.
5. 5 aussi pour le fond d'érudition. Ouais.
Oui, quand même un 5. Quand même un 5.
Ben, ça dépend des attentes, mais selon les miennes, 5.
Bon, ben, je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est paru chez Albin Michel. On termine comme toujours par le tour de nos coups de cœur. Le mien s'appelle Blancanieves. C'est un film espagnol muet en noir et blanc. Alors dit comme ça, c'est pas forcément très excitant. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas beaucoup excité le spectateur, puisque dans la salle où je me suis rendue il y a quelques jours, on était 2, je pense.
Vous vous sentez 2
supérieurs. Voilà. Mais c'est une erreur, évidemment, de ne pas aller voir ce film. Nous, on le sait, parce qu'on l'a même mis en couverture. D'ailleurs, c'est tous nos lecteurs qui ont été voir. Donc, c'est une réinterprétation de l'histoire de Blanche-Neige dans le milieu de la corrida et des freak shows, avec une petite fille détestée par sa belle-mère qui est réfugiée dans la forêt parmi les nains, qui poursuit l'œuvre paternelle en soumettant des taureaux à sa suprématie. C'est d'une beauté tout à fait stupéfiante, notamment au niveau des lumières. Laurent, toi, tu l'as vu, donc tu peux en témoigner. Le noir et blanc est vraiment magnifique. Les acteurs, enfin surtout les actrices, une en particulier qui joue une mère et une fille, qui s'appelle Macarena Garcia. Est complètement incroyable. J'ai jamais vu des yeux pareils de ma vie. Tu l'as vu aussi. Les deux Laurent l'ont vu. C'est un type qui s'appelle Pablo Berger qui l'a réalisé. Tu l'as vu aussi?
Non.
Okay. Pablo Berger l'a réalisé et c'est le film que vous allez regretter de ne pas avoir vu si vous le loupez. Et si ça continue comme ça, bah, il va déprogrammer des salles. Donc dépêchez-vous.
Il vaut mieux le voir sur grand écran.
Ah, évidemment, c'est tellement beau.
C'est un film qui a quand même 27 euros de recettes.
Sur le grand Bruxelles.
C'est cinématique dans quelques mois.
Il y a eu de plein de Goya.
Oui, Goya du meilleur film, du meilleur scénario.
Focus le défend, Bexéon, couverture, la totale.
Et grosse découverte du Bif aussi, où il a eu un prix dans la section 7e parallèle.
On ira voir.
Bon, à toi Guy maintenant. Ton coup de cœur.
Vite fait, c'est l'album de DJ Kaws.
Ah oui.
Amidala. Amygdala ? Amidala.
Amidala,
oui. Amidala.
Amidala.
Amidala. Voilà. C'est un album un peu électro-atmosphérique avec différents types de contributions qui est étonnant à différents niveaux. Je sais pas ce que tu en penses.
Non, mais on a dit beaucoup de bien. C'est électronique, mais il y a plein de soul derrière. Il y a Apparat qui apparaît.
C'est bien, ça.
Oui, ton ami Apparat, voilà. Il est là.
11 mai, Cirque Royal, Apparat.
Voilà, avec une chanson qui s'appelle Homesick, que j'adore particulièrement. Voilà.
Donc c'est typiquement le genre de groove électro qui pourrait passer inaperçu, mais qui en fait qui a plein de substances derrière et qui c'est pas du tout lazy listening. C'est vraiment un groove assez.
Du tout, tu dis?
De lazy listening.
Ah oui.
Listening.
On a beaucoup utilisé ce mot aujourd'hui. Voilà.
Donc il y a un truc très chaleureux, très et en même temps pas du tout superficiel. Et...
Très bon choix de...
Okay. Donc moi je le fais plus régressif. Belle sortie chez Frémok, éditeur belge indépendant, de Cowboy Hank. Cowboy Hank, pour ceux, les quelques-uns qui lisent Humo depuis à peu près 30 ans, c'est une institution du côté néerlandophone. C'est...
Les États-Unis, hein,
oui, il est passé dans Raw, il est passé dans Fluid, c'est vraiment devenu très très pointu, et pourtant c'est régressif, c'est porno.
C'est
trash. Ah, c'est très cul, c'est très... voilà, ça mélange de la politique, du porno, c'est dans le mouvement post-punk début des années 80. Deux personnes qui font ça, c'est RCL et Kamagurka. Kamagurka qu'on ne présente pas, là aussi, du côté néerlandophone.
On focus toutes les semaines.
Voilà.
C'est pas vrai.
À partir de
un petit
ans.
Strip.
Ah ben ça, quel beau scoop. Et donc, voilà, je ne sais pas si ce sera porno, mais en tout cas, Cowboy Hank, c'est vraiment la figure. C'est le mélange du surréalisme et des repères de la BD flamande. On prend un personnage monumental, très figé, et on lui fait faire des choses absolument inadmissibles. C'est hilarant. On ne comprend pas comment Humo a pu passer ça pendant 25 ans dans ses pages sans qu'il y ait des problèmes. Il y a eu évidemment plein de problèmes. Ils ont tout le temps des courriers. Pour situer un peu, ils recommencent à en faire. Pour situer un peu l'esprit, là, ils ont fait un gag tout récent. De Cowboy Hank où on voit le président de Syrie qui attend le train à Wateron. Et je vous laisse regarder dans l'actualité pourquoi, puisqu'il y a eu une petite explosion chimique. Et voilà. Ça, c'est des gags à la Cowboy Hank quand c'est politique.
C'est d'un goût très sûr.
Voilà. Sinon, c'est très, très cul. Mais c'est, voilà, c'est irrégressif et provocant. Et c'est une référence. Et c'est la première fois qu'on sort...
Avec un graphisme très pop et...
Complètement, c'est vraiment...
C'est assez bluffant. Parce que... Voilà. Il compense aussi ce côté parfois un peu trash.
Oui, c'est ça. C'est pas sale, c'est pas punk dans l'image. C'est très éthéré, c'est très beau. C'est très américain dans la manière. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en 30 ans, ce graphisme n'a pas changé. Mmh. Et c'est voulu. Ici, les pages sont mélangées.
Une sorte de monsieur propre avec la coiffure avec de Jérôme, de voilà. Bob et Bobette.
Mais
en
monsieur
blond.
Propre, vraiment pas propre. Hein. Donc, on en sortira quelques-uns. On n'est plus à l'image. Mais vous verrez. Enfin, voilà, il y a des... C'est... Très très impressionnant, je te laisse voir ceci par exemple, Myriam, pour te faire apprécier. Oui, très séminal dedans. Et donc voilà, c'est un pan de la culture, une certaine culture belge et flamande. Il y a une exposition qui se fait actuellement chez Champaka et le bouquin qui a sorti ses Frémok est le premier qui reprend de manière aussi complète les Cowboy Hank.
Le chef, Laurent.
Bien, moi, je reviens avec un film, mais pour sa sortie en DVD, c'est Foxfire de Laurent Cantet. Film qui
avait aussi une couverture de Focus à l'époque de sa sortie.
Exactement, cinéma. Exactement. Et donc Laurent Cantet qui avait remporté la palme inattendue pour Entre les murs, histoire d'une classe et de son professeur qui était joué par Laurent Bégaudeau, qui avait coécrit le film. Voilà. Et donc ici, il change complètement d'univers. Il est parti aux États-Unis, il voulait faire son film américain, ce qui pouvait être très risqué a priori comme démarche. Et il nous raconte l'histoire d'un gang de filles qui va se constituer dans un petit bled perdu des États-Unis dans les années 50. C'est une adaptation d'un roman de Joyce Carol Oates. Et c'est vraiment génial parce qu'on voit comment ces filles qui s'ennuient, qui en ont marre du machisme, des mecs et tout vont petit à petit se constituer en communauté, espèce d'utopie féministe, et foutre le bordel dans le coin.
Et on se régale. Et c'est filmé avec beaucoup de d'attention et d'économie. Il n'a pas voulu faire en rajouter parce qu'il était aux États-Unis. Et donc il réussit à marier les deux univers. Et c'est l'actrice principale qui dont le personnage Legs ici va sans doute exploser. Elle est encore inconnue puisqu'il a pris que des acteurs inconnus du cru. Franchement, c'est précipitez-vous si vous l'avez pas vu sur grand écran.
Foxfire donc. Et l'autre, Laurent, oui. Le petit chef, celui des pages.
Le petit chef, le petit caporal, vous conseille un disque rap. Oui, absolument, parce qu'on est street, on est
route.
On est complètement on est comme ça, route. C'est une mixtape, donc voilà, c'est gratuit. Tu peux y aller, tu peux télécharger gratuitement, c'est cadeau, c'est bonheur. Le rappeur s'appelle Chance the Rapper. Chance the Rapper. Chance et la rapper. Mixtape s'appelle Acid Rap. Et, donc Acid Rap, et c'est pas du tout. Comme on pourrait le penser, on n'est pas du tout dans un rap agressif, dark, sombre, comme on peut parfois en entendre pas mal. On est plutôt dans un truc très, très coloré, très, très pas léger, mais en tout cas assez...
positif.
Assez, ouais, positif. En tout cas coloré et voilà, très enthousiasmant. Le mec a un flow terrible et voilà, je pense
que. Une mixtape, c'est annonciateur de quelque chose de plus un jour ou l'autre ?
Écoute, je vais creuser le sujet, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il y a ce truc qui est disponible et qui est vraiment. Chicago. Donc, comme M. Kanye West, mais on est vraiment dans tout à fait autre chose. Et voilà, il y a un truc très rafraîchissant dans son approche et ça sort un peu du lot, ça fait du bien d'entendre ça aussi.
Ça fait du bien surtout de t'entendre, Laurent.
Écoute, avec plaisir.
Bon. Eh bien voilà, c'est fini, c'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir suivis, c'était une sage décision. On vous retrouve dans 2 semaines avec une fois encore la confrontation des avis d'une belle équipe de professionnels de la critique. D'ici là, suivez nos actualités sur Facebook, sur la page Focus Store et lisez-nous dans notre version imprimée, juste pour vos yeux, dans le magazine Focus Vif, vendu avec le Vif Express. Salut tout le monde, c'est chouette que vous soyez venus. Non, vraiment, ça m'a fait plaisir. C'était un peu long, hein, mais... Bon, merci, à bientôt.
Salut.
Salut. Merci.